On va parler cuisine, évidemment. Nous recevons Rémi Giraud. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à l'antenne d'Attitude. Alors, vous vous occupez de plusieurs collectifs. Ce sera l'occasion de les présenter. Ex-chef cuisinier, c'est ça?
Ex-chef cuisinier, absolument.
Comment c'est venu cette passion de la cuisine pour comprendre un petit peu votre parcours?
Eh bien, ça ne vient pas de mes parents, puisque ma mère ne savait, savait très peu faire la cuisine, mon père ne savait pas cuire un œuf. Et par contre, moi, à 7 ans, je voulais être cuisinier. Et puis, vous voyez, à 62 ans, je suis toujours cuisinier, toujours autant passionné.
C'est peut-être l'urgence, justement, d'avoir un bon repas qui vous a motivé à apprendre.
Absolument, absolument.
Et du coup, quel parcours parce que là, c'était quand même un grand
parcours. Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique. Je suis originaire de Vendée.
D'accord.
Et toujours fier de parler de mon petit village, puisque c'est un petit village qui a connu quand même quatre grands hommes, dont deux que tout le monde connaît, qui est le maréchal de Lattes de Tassigny.
Ah oui. Mm-hmm.
Et Georges Clémenceau, qui sont nés dans ce petit village de 1200 habitants.
Effectivement, d'accord. On connaît.
Voilà. Donc, je suis issu de Vendée. J'ai fait mon parcours dans des petits restaurants sur la côte vendéenne, dans des petits restaurants routiers. Et j'ai la particularité d'être un chef qui n'a jamais travaillé dans des étoilés Michelin.
D'accord.
Mais qui suis un chef qui a toujours été étoilé au premier jour où j'ai été chef. Et
d'accord.
Donc, j'ai à mon actif 7 années de 1 étoile et 27 années de 2 étoiles au guide Michelin.
Génial.
Et retraité depuis 2 ans.
D'accord, mais ceci dit, une retraite très active, car vous êtes ici pour représenter donc les disciples d'Escoffier.
Absolument, disons que je me suis tourné naturellement pour continuer la transmission et l'associatif, puisque être cuisinier, c'est aussi aimer, partager et faire plaisir. Et donc depuis trois ans maintenant, je suis président des disciples d'Escoffier, délégation Centre-Val de Loire. Donc on fait perdurer un petit peu l'esprit d'Auguste Escoffier, à savoir forcément la transmission et puis le partage. Et donc nous organisons de nombreux événements dont les bénéfices sont systématiquement reversés à des œuvres caritatives.
Ah oui, très bien.
Nous travaillons, en ce qui me concerne, pour ma délégation, je travaille beaucoup avec les hôpitaux, hôpitaux pour enfants, personne atteinte d'Alzheimer et tout cela, sous la casquette disciple Escoffier.
Et vos événements consistent en quoi? Vous faites des démonstrations de cuisine, des cours,
Alors ça peut être des repas.
D'accord.
Ça peut être des repas, ça peut être aussi des cours de cuisine, en effet, des cours de cuisine. Surtout, j'oserais dire, des repas et de l'événementiel, c'est-à-dire comme nous le faisons aujourd'hui durant les gastronomades, où des petites préparations ont été faites par les Escoffiers. Et ces préparations, les bénéfices sont reversés systématiquement à une association. Donc c'est un petit peu des événements comme ça que je fais dans ma délégation sur la région Centre-Val de Loire.
Et ce n'est pas votre seule casquette, car vous êtes venu également représenter une autre structure, laquelle?
Alors je représente également une école de cuisine, puisque j'étais donc chef au domaine des Hauts-de-Loire, un relais château à Onzain, près de Blois. Et durant mon activité, on a développé plusieurs choses. Le restaurant gastronomique était en place, un bistrot, et on a développé une école de cuisine. Et cette école de cuisine, suite à ma retraite, je continue de l'animer, parce que, comme je vous dis, c'est mon plaisir de transmettre.
Et vous avez également déposé donc un brevet, vous nous disiez ça en antenne, qui mélange.
Oui, j'ai déposé une marque.
Ça nous intéresse.
J'ai déposé une marque à l'INPI qui s'appelle Fondango. Fondango a été déposé à la suite d'une collaboration avec l'École des Beaux-Arts de Blois. Et en fin de compte, l'École des Beaux-Arts de Blois a une exposition sur le mouvement Fluxus, art contemporain.
Ah oui. D'accord.
Voilà, donc en fin de compte, c'est parti de l'art contemporain du mouvement Fluxus, où en étudiant l'œuvre d'un artiste du mouvement, j'en crée une œuvre gastronomique. Donc j'ai déposé un petit peu ce concept, et en fin de compte, ce qui peut permettre, pourquoi pas, d'aller à l'autre bout du monde pour le vernissage d'un artiste. Il suffit que je m'empare un petit peu de tout ce qu'a pu faire l'artiste et y trouver des marqueurs pour les développer culinairement parlant. Pour prendre un exemple, vous avez un artiste du mouvement Fluxus qui s'appelle Ben Vautier, que tout le monde connaît, les écritures de Ben, le mur des mots à Blois. Et donc c'est tous les enfants, tous les adultes connaissent sur un fond noir ces écritures blanches tout en arrondi, avec des mots parfois tout à fait
bien inspiré, dirons-nous.
C'est tout à fait marrant. Faut connaître le personnage Ben Vautier, qui vit à Nice, qui a un certain âge. Je l'ai rencontré, et en fin de compte, pour reproduire ces mots sur ces ardoises, eh bien moi j'ai fait un éclair au charbon actif.
D'accord.
Et comme Ben Vautier a beaucoup d'humour, j'ai transféré et œuf de caille pochée.
Ah d'accord, vous êtes vraiment parti très loin dans le concept.
Ah oui, voilà. Donc on regrette que ce soit pas encore développé, c'est que j'avais pas trop le temps, puis j'ai tellement de choses à faire, parce qu'en fin de compte, je disais que je voulais mettre sous le prix, parce qu'on vendait cela très peu cher, surtout pour des étudiants. Et je regrette qu'on n'ait pas abouti jusqu'où je voulais aller, c'est-à-dire avec un flash code où les jeunes puissent flasher et voir la démarche du cuisinier par rapport à l'art contemporain. Mmh. C'est-à-dire que ça aurait pu être financé par l'éducation nationale pour apprendre l'art aux enfants tout en mangeant des bons produits.
Effectivement. Et justement, parlons du rapport, on va dire, aux gens, par rapport à la cuisine, par rapport à la nourriture. Sur votre carrière, vous l'avez vu beaucoup évoluer, notamment enfin, dans les restaurants où vous avez servi, mais aussi d'une manière générale.
Ben la cuisine est toujours en mouvement. La cuisine évolue tout le temps. Il y a eu des mouvements qui se sont créés durant toutes les décennies, mais qui évoluent d'année en année. Mais ce qu'il y a, on est dans une période actuellement qui est une période malgré tout de crise. Mmh. Et je pense qu'en période de crise, les gens aiment être rassurés avec des bons produits. Oui. Et moi, je prêche, puisque je suis aussi également, je suis le référent régional et membre du comité de réflexion du Collège culinaire de France.
D'accord.
Et à ce titre-là, je fais beaucoup de, j'organise des marchés où l'acheteur,
Le consommateur,
voilà, c'était tellement facile. Eh ben, le consommateur a besoin d'informations. Et quand vous parlez d'un produit et que vous avez le producteur en face de vous, il va vous dire la vérité, il va vous dire les produits.
Oui, forcément.
Voilà, on apprend, j'en parlais tout à l'heure avec un ami qui est également escoffier. Je parlais, par exemple, quand vous prenez du poisson d'élevage, ok. Mmh. Si on parle du saumon, par exemple, du saumon, on le retrouve beaucoup en élevage.
Oui.
Bon, mais il y a élevage et élevage, hein, c'est comme pour la truite. Il y a élevage et élevage, et on dit, on apprend ça dans les écoles, on leur dit les ouïes, on leur dit les yeux, le mucus sur le poisson, et il y a une chose qu'ils oublient, la queue du poisson. Parce que la queue du poisson, si elle reste entière, c'est que les densités de poissons sont peu élevées. Donc c'est un élevage beaucoup plus responsable.
D'accord.
Et il n'y a pas besoin d'augmenter des vaccinations ou des choses comme ça. Vous demandez à un charcutier qui vous assure qu'il fait du très très bon cochon de qualité. Eh ben, s'il fait du très bon cochon de qualité, ben, demandez-lui qu'il vous fournisse deux ou trois queues de cochon. Et vous verrez ce qu'il vous dira. Si c'est des cochons de qualité, il y aura la queue du cochon. Si c'est du cochon, je dirais pas le mot, hein, en cinq lettres.
On a compris.
Hein, je ne m'appelle pas Jean-Pierre Coff. Eh bien, si vous n'avez pas la queue du cochon, c'est du cochon de mauvaise qualité, puisque les cochons qui sont en haute densité, on leur coupe la queue, on leur lime les dents. Et voilà, et ça, c'est pas bien. Et donc ça, il faut prêcher la bonne parole au travers du collège culinaire, au travers des escoffiers, rééduquer les gens et leur faire redécouvrir les bons produits que nous connaissons tous, qui sont rassurants, et arrêter la malbouffe.
Mais c'est une tendance de cuisine actuelle,
oui, tout à fait.
De faire des plats, même en gastronomie d'ailleurs, avec des produits plus simples qu'avant. On ne va plus chercher des produits exceptionnels. Avant, c'était forcément du homard, du caviar. Et maintenant, on va vous faire des plats d'exception avec de l'artichaut, par exemple, qui est un aliment qui était après rejeté. C'est un aliment trop simple. Et on peut faire des choses magnifiques avec un artichaut. Et la tendance revient à ça. Déjà, parce que économiquement, c'est moins cher. Et puis, c'est toujours de la productivité qui est à côté de chez soi. C'est le petit producteur d'à côté, on va au marché, on trouve un artichaut. Vous voulez acheter un saumon? Alors 90% c'est du Norvège. Il y a quelques bons reportages dessus pour voir les fonds marins qui sont détruits en Norvège.
Ouais.
Et ils font pas partie de l'Europe. À savoir qu'ils utilisent des produits que l'Europe autorise à petite dose, mais ils veulent pas donner exactement les doses qu'ils mettent.
D'accord.
Par contre, en Écosse, vous avez des élevages qui ont un label rouge, ouais. sont labellisés. Et vous sentez la différence. Moi, j'ai mon poissonnier qui a du label rouge, écossais. J'ai goûté les deux. Il y a une sacrée différence.
On sent, et vous avez du français aussi.
Et du français également.
Il y a du français.
D'accord. Par France.
Contre, le français, il serait bien, mais le.
Cherbourg.
Le prix n'est pas le même. Parce que moi, j'ai été voir. Et après, moi, j'ai essayé. Mais quand vous êtes un ouvrier. Hein, on va dire.
C'est vrai,
ça devient compliqué d'aller acheter un saumon français. C'est comme on a du caviar en France, hein, à côté à Bordeaux, on en a. Par contre, il est inabordable. Il est inabordable. Alors, ok, c'est dur à fabriquer, mais tout le monde peut pas acheter. Et c'est aussi pour ça que les produits simples et la cuisine simple revient au goût du jour et que vous avez qu'à regarder les émissions de cuisine à la télé, beaucoup d'émissions de cuisine. Font ça maintenant avec des produits simples du tous les jours que tout le monde peut trouver pour intéresser les gens à la cuisine et à bien manger. Ouais. Bien manger, ça coûte pas forcément très cher.
Et surtout aussi, ça c'est quelque chose d'important que je défends, c'est surtout le rapport protéines et végétales.
Oui.
On était souvent, les jeunes, c'est souvent 80% de viande pour 20% de légumes. Le rapport, normalement, il faudrait plutôt passer à 30% de protéines pour 70% de végétal. Mais pour faire manger du végétal, il faut y mettre un petit peu d'amour. Et c'est bien là le problème, puisque moi je fais depuis de nombreuses années des menus dégustation entièrement végétal. Mmh. Je défends le végétal. Mmh. Et seulement il faut y mettre un peu d'amour, il faut y mettre un peu de travail. Et quand c'est fait, beaucoup de chefs à une époque dans leur cuisine, vous tombiez sur une personne végétarienne ou je ne sais quoi, vous voyez en cuisine, ça les agaçait, souvent les cuisiniers, parce qu'ils n'étaient pas en place pour ce genre de choses. Et c'était quoi? C'était des légumes dans l'eau, avec de l'huile d'olive, un peu de fleur de sel, ou du beurre. Bon, ben ouais, mais d'accord, c'est pas très, ça ne fait pas trop rêver. Mmh. Seulement, vous pouvez prendre, moi je vois par exemple sur un menu végétal où je faisais de la carotte en croûte feuilletée. Mmh. En croûte feuilletée, bon, eh ben, c'est pas compliqué. Une bonne pâte feuilletée, une carotte enroulée dans la pâte feuilletée, vous faites une émulsion de carotte. Je faisais une émulsion de carotte à la fleur d'oranger. Mmh. Eh ben, j'en connais qui n'aimaient pas trop la carotte et qui ont changé d'avis. Donc, il faut mettre un peu d'amour.
Et c'est vrai qu'on peut remarquer que dans de plus en plus de restaurants, les cuisiniers justement se prêtent au jeu, justement des régimes un peu plus marginaux, là, notamment le régime végétarien ou même végétalien, ouais. et proposent des choses. Et justement, dans le métier de cuisine, dans une carrière, quand on est quelque part, on doit suivre un peu les tendances, mais on doit aussi apporter sa touche. C'est une sorte de jeu d'équilibriste, un peu toujours.
Disons qu'il faut toujours, se remettre en question. Il faut pas forcément suivre inévitablement les tendances, il faut surtout faire parler son cœur, faire parler ses goûts, ses envies, et c'est ce qui fait la différence entre les uns et les autres. La cuisine d'un chef n'est pas la cuisine de l'autre chef.
Oui.
Il faut s'adapter au prix, comme on en parlait à l'instant. Donc les produits, vous savez, un produit qui coûte pas cher, pour un produit basique je ne sais pas, un abat ou des choses comme ça qui ne vous coûtent pas très cher, il faut y mettre un petit peu d'amour. Ça demande parfois un peu plus de travail pour faire passer un petit peu le produit en lui-même. Comme par exemple tout à l'heure sur la scène des gastronomates, je vais prendre un bas morceau d'agneau que je vais gastronomiser.
D'accord, et vous y serez à quelle heure d'ailleurs?
Oh, c'est pas tout de suite. Hein.
D'accord.
Ce sera dans une heure et demie.
D'accord, bon, ça va, on peut venir encore.
Ça commence aussi par l'éducation.
Exact.
Parce que les écoles maintenant font d'énormes efforts. Moi, je vois par rapport à ma génération, hein, j'ai 50 ans passé. Quand vous mangez à la cantine, les légumes, c'est des légumes à l'eau, c'était pas bon.
Oui, c'est ça.
Alors que moi, j'ai appris à manger des légumes chez mes parents qui sortaient du jardin, que ma mère cuisinait. Mais ceux qui n'ont pas des parents qui cuisinent, si l'école non plus ne leur apprend pas, je vois la plupart des gens que je connais qui n'aiment pas les épinards, par exemple, ou c'est les épinards de la cantine. Et moi, je fais des épinards à ma fille depuis qu'elle est petite et elle adore les épinards. Exactement. Parce que les épinards, c'est un très bon produit. Par contre, s'il est bouilli à l'eau et juste mis un peu de sel, forcément.
Oui, ça conditionne nos goûts et ça les détermine pour la suite. Après, c'est dur de se rééduquer un petit peu et de souffrir.
Essayez autre chose. Goût brocoli, c'est pas parce que vous n'aimez pas. Il ne faut pas le faire goûter à votre enfant. Et ça se trouve, il aimera les brocolis. Le brocoli est un très bon. En plus, c'est très bon pour la santé. Et c'est un très bon légume. Moi, j'adore les brocolis, par exemple. Mais j'ai appris à les aimer. Et j'ai appris à ma fille à aimer ces genres de choses. Mais c'est une éducation.
Effectivement. Ouais.
Et aimer cuisiner aussi. Parce que c'est vrai que si vous les faites cuire vapeur, c'est plat.
Ouais, il faut vraiment le. Mais par rapport à cela, moi je vois mon. Bon, j'ai un ami qui va rentrer d'ailleurs d'ici Pescoffier et qui est chef d'un collège à Bléré, Sébastien Brun. Sébastien Brun qui mériterait la Légion d'honneur parce que quand vous voyez la plupart du temps les parents qui disent ben. Moi, j'aimerais bien aller manger à la cantine avec mes enfants.
Oh, ça vaut toutes les décorations, ça.
Ah ben, ça vaut toutes les décorations, puisque ce garçon-là, non seulement il vous fait manger des plats travaillés à des prix de cantine, hein, et en plus, il vous met toujours en fil de self, tout au bout, vous avez le produit brut. Pour éduquer les enfants, savoir la forme du butternut, la forme de l'artichaut. Et lui, c'est son attachement. C'est quelqu'un qui est formidable pour ça. Moi, je vois mon garçon a toujours été élevé, bien sûr, par moi-même et par ma femme. Bon, j'ai fait les petits pots et tout ça. Mmh. Et ce qui est étonnant, avec l'âge, il a maintenant 34 ans. Mmh. Il a un catalogue de goût, une mémoire de goût. Je suis un rigolo à côté. Voilà. C'est l'éducation.
Voilà, on verra sur l'éducation, c'est effectivement ça.
J'ai le même problème avec ma fille. Mais c'est sur tous les domaines. En plus, cette génération-là qui a commencé à apprendre avec Internet qui s'est développé, ils ont un moyen d'apprendre sur comment cuisiner des produits et tout énorme avec Internet. Même moi, je m'en sers énormément parce qu'on va apprendre à cuisiner des produits du monde entier, avec des recettes du monde entier et pouvoir mélanger des saveurs auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et facilement.
Donc c'est de l'éducation. On en est bien là.
Voilà. Et justement, cette mission de, comme vous l'avez dit, de transmission des savoirs et de partage, ça vous prend beaucoup de temps. Vous êtes toujours en train de bouger, en vrai.
Comment ?
Vous êtes toujours en train de bouger, toujours en mouvement.
Ah tout le temps, tout le temps. Vous voyez, on parlait de l'art d'aimer. L'art d'aimer, cette école de cuisine. Il faut savoir que au domaine des Hauts-de-Loire, donc elle est au domaine, dans l'enceinte même du domaine des Hauts-de-Loire, à Anzin, près de Blois. Et bien, le premier dimanche de chaque mois. C'est un cours qui s'adresse aux enfants à partir de 5 ans.
D'accord, voilà. Effectivement, l'éducation très tôt et
voilà, ça c'est
ça
et ça
marche
bien. Voilà. Et pas que du sucré.
Mais c'est vrai que oui, en plus on a souvent des souvenirs quand on est genre au centre aéré, qu'on apprend à faire de la compote tout bêtement, qu'on la mange à la fin, c'est quelque part il y a ce côté travail plus récompense où on se dit tiens voilà, on prend plus la mesure de ce qu'on mange en fait.
Les souvenirs que j'ai avec les enfants par exemple, c'est Pâques. C'est les fêtes de Pâques à Pâques. Avec l'aide des parents, j'apprends aux enfants à mettre au point un chocolat, à faire des moulages, à faire des moulages et à repartir avec un œuf de Pâques ou une cloche de Pâques. Je peux vous assurer, avec des petites fritures à l'intérieur, je peux vous assurer, c'est pas sorcier, il faut l'avoir vu, il faut comprendre, il faut. Après,
la courbe
5 ans,
et
la courbe des températures, il faut l'assistance des parents avec le thermomètre, mais c'est pas sorcier. Et souvent, ce que je demande, les enfants, avec les parents, c'est de refaire dans la foulée, très rapidement, de refaire ça avec les enfants. Et c'est les sourires, et vous pouvez pas vous imaginer comme les enfants, quand vous leur montrez des belles choses, gourmandes, jolies et tout ça, mais ils sont complètement assis. C'est des cours qui durent pas plus d'une heure par contre.
De toute façon, c'est la concentration, durée de concentration d'un enfant à 5-6 ans.
Et donc, ça, c'est la transmission. Et puis, la transmission, c'est notre devoir. C'est notre devoir.
Et voilà, vous avez quand même pas mal de missions, vous les avez détaillées. Un jeune restaurateur peut venir vous voir, vous demander des conseils.
Je fais du conseil pour des restaurateurs également. Je me déplace même dans les établissements. Je fais des repas privés chez les particuliers. Je fais des repas exclusifs sur la Loire, avec cuisine sur l'île de la Loire.
D'accord.
Et j'interviens aussi dans une autre école de cuisine avec des pêcheurs de Loire.
Ok.
Donc je m'ennuie pas trop et je fais du consulting aussi sur à l'étranger, puisque je forme des étrangers, puisque je suis souvent sur la Bulgarie en l'occurrence.
Ah oui,
Bulgarie et Brésil.
Quel regard vous avez depuis quelques années sur toutes ces émissions à la télé qui parlent de cuisine, de concours, etc.
Qu'est-ce que j'ai comme regard? Encore faudrait-il que je les regarde.
Oui.
Voilà.
Mine de rien, ça mobilise du téléspectateur. Ça fait des audiences. Alors, est-ce que ça motive, on va dire, le grand public à se mettre d'une autre manière à la cuisine?
Je pense que ça peut motiver le grand public à vouloir faire de la cuisine, mais entre ce que vous voyez à la télé et puis la réalité des choses, après, c'est pas le tout de le regarder à la télé. Il faut sortir la casserole, allumer le feu et puis s'y mettre. Et puis voilà. Donc,
c'est qu'au final,
moi, vous savez, c'est toujours ce que je dis dans mon école. Je n'ai jamais fait de bouquin. J'ai participé à des bouquins de cuisine, mais je n'ai jamais fait de bouquin et ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la transmission par le geste et par les mots. Un bouquin, vous ouvrez, vous avez une recette. À la télé, vous avez des visages, vous avez des mots, mais vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez pas l'esprit.
Oui, c'est vrai que le fait que ce soit un produit télévisuel force forcément à respecter certains codes, enfin du moins.
Oui,
ils sont pas tant forcés que ça en vrai, mais ils le font, toujours est-il qu'ils le font, et ça passe sur la compétition, ça passe sur du drame, ça passe sur toutes ces choses qui mettent la transmission au second plan en fait.
Mais pour ça, t'as des bonnes émissions, c'est sur YouTube, pour pas le nommer.
Il y a
des chaînes avec des amateurs même de cuisine où là, c'est étape par étape.
Oui.
Et alors il y a du direct, mais si tu veux la faire et que t'es pas en direct, l'avantage c'est que tu peux faire une pause, revenir en arrière si t'as pas vu comment ça se découpait, comment ça se pelait, par exemple comment on va écailler ou préparer un poisson, tu fais une marche arrière et tu la repasses et t'apprends parce que t'as le geste.
Oui, c'est pas du tout la même approche, effectivement.
Et c'est là que l'internet peut avoir un intérêt, autant d'un certain côté c'est détestable, ça crée de la haine pas mal sur les réseaux sociaux, et autant à côté de ça, ça peut apporter une éducation énorme.
Bah, puisque vous parlez de transmission, on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous a rejoint ici en plateau, qui connaît ce mot transmission, et qui quand vous parlez de prendre les casseroles et de se faire à manger et de partager quelque chose, il connaît ça par cœur. Pitchu, merci de nous rejoindre à nouveau.
C'est fantastique. Moi, je voudrais juste par rapport à ce que j'ai entendu. Il y a une chose que l'on peut vraiment dire et qui est sûre, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, s'il n'y avait pas eu des émissions autour de la cuisine, regardez aujourd'hui tous les produits et ustensiles d'un professionnel qu'on a maintenant la possibilité de trouver. Alors moi j'ai confiance, il y a des jeunes qui ont de plus en plus envie de faire des choses. Moi je suis un défenseur, je ne suis pas quelqu'un qui revisite. Je suis un défenseur des choses vraies, authentiques, et arrêtez de me changer les choses. Quand on te sert une joue de bœuf, ma grand-mère ne m'a jamais fait une joue de bœuf servie n'importe comment. Elle me l'a servie comme ça. Alors, c'est ça, il faut défendre. Et je vous ai amené une petite surprise, parce que je vois qu'il y a un monsieur à mes côtés qui est pourvu de décoration. Alors, j'ai fait une petite histoire, vous pouvez voir que j'ai une veste neutre, qui est 100% française, fabriqué dans les Vosges.
Ouais.
Les plus grands chefs s'en font faire. Moi, je l'ai payé, ça coûte une fortune, et j'aurais pu mettre des décorations. Alors, je vous ai amené différents cols qu'on a le droit de porter, et vous allez voir qu'il y en a certains qui sont un peu usurpés. Voici le col officiel d'un champion du monde. Il a donc toutes les couleurs. Mais on s'aperçoit qu'il y en a, on ne sait pas combien il peut exister de champion du monde, et c'est comme ça. Après, il y a un autre col qui existe, il y a deux petits drapeaux bleu, blanc, rouge près du cou, comme moi j'ai les mouettes. Alors là, il n'y a que deux possibilités. On verra mon voisin de droite s'il dit que je mens ou pas, parce que je suis sûr que j'ai raison. Là, c'est un col officiel qui a deux significations. Soit tu cuisines pour l'État, sauf l'Élysée qui ont un logo bien particulier, soit tu es champion de France. Alors ces deux-là, je peux vous dire qu'il y en a qui s'amusent à les porter. Et après, si j'ai bien vu, j'ai gardé le meilleur pour la fin, celui que je rêvais d'avoir, qui à mon avis est le plus vrai. Qui est le plus vrai, et je l'ouvre jamais sans avoir une pensée. Je ne sais pas s'il m'entend là-haut, mais quelqu'un qui m'a fait rencontrer ce club, et pour moi le vrai, il est ici. C'est celui qui est de meilleur ouvrier de France. Et si tu regardes bien, il se porte comme ça, parce que vous avez en haut le blanc, puis le bleu, le blanc et le rouge. Et moi je fais honneur, parce que pour être mof, si on est mof, je peux dire qu'on n'est pas une des coins qui est fait. Cette histoire de col, et le président des MOF m'a dit, c'est vrai. Alors toi qui es MOF, est-ce que j'ai raison de dire que celui-ci, c'est le vrai, et que ça, il y en a qui le copient?
Mais moi, je ne suis pas MOF.
Ah, mais c'est quoi que t'es, toi?
Ça, en fin de compte...
Parlez bien dans le micro.
Ça, en fin de compte, ce sont les médailles. Ce sont les médailles ce sont les médailles des disciples escoffiers. Je n'ai pas le col, mais par contre, je vous rassure, j'ai un de mes jeunes que j'avais pendant 2 ans et demi en formation, puis qui a fait quelques mois dans mon entreprise il y a quelques années, qui vient de décrocher, lui, le col. le col de meilleur ouvrier de France 2022.
Donc t'es d'accord avec moi, il y a vraiment une différence.
Ah ben tout à fait. Mais
ce col, alors j'ai rien contre toutes les associations, parce que toutes ces associations de sauvegarde culinaire, mais ça c'est très bien, c'est très bien. Moi en tant que chroniqueur, il y a une chose, sans citer de nom, que ce soit Escoffier, que ce soit la gastronomie de machin, de trucs, je sais pas, à un moment... Il y a des gens qui sont là-dedans, sauf que moi, je les vois. Et quand je vois comment ils mangent, je suis fou. Je suis fou. Fou, fou. Quand tu défends la gastronomie, c'est qu'à un moment... Tiens, je vais vous dire un autre truc vite fait pour vous faire rire. Je n'ai jamais voulu rentrer dans la moindre confrérie. Pourquoi ?
J'allais te poser la question, justement.
Parce qu'un jour, il y avait la confrérie de l'andouillette de je sais plus quoi. Il y avait que des vieux qui n'en bouffaient pas parce qu'ils avaient soi-disant du cholestérol. Alors tu t'en vantes là-dedans.
Et justement, tu parlais de la joue de bœuf.
Ah, je suis content, puis... t'as fini par me dire tu quand même.
Oui, oui. Tu parlais de la joue de bœuf, et puisque je rapporte à un ami voisin qui est meilleur ouvrier de France également, Christophe Quentin, puis qu'il me disait, ça l'énervait un petit peu tous ces chefs, tous ces gens qui revisitent. Il disait, avant de revisiter, il ferait bien de visiter d'abord.
Et oui, et oui. Alors par contre, tu disais tout à l'heure, je te dis tu aussi, comment c'est ton prénom ?
Rémi.
Rémi, tu vois ce qu'il y a de bien, et tu le disais, alors j'ai perdu aussi ton prénom, toi à côté,
John.
Un John qui est costaud comme moi, 0 tonne et quelques. Ce qui est très bien dans ces émissions, tu le disais, c'est à partir du moment où on peut faire des retours en arrière pour voir le geste. Bon, moi j'ai eu la chance sur un salon à Bordeaux de croiser quelqu'un que vous connaissez qui est un mof, qui est Philippe Etchebetz, et je peux le dire, même si tout le monde l'entend, je lui dis, mais attends, mais peux-tu m'expliquer à quoi ça sert d'aller faire pleurer des gens dans la cuisine et tout? Mais parce qu'il y a un moment de la télé-réalité. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il a cette façon de parler. Alors, il y a sa façon à lui. Il y a d'autres grands chefs comme... j'aime beaucoup Thierry Marx, oui, avec cette façon de renvoyer à la méditation, à la sagesse.
C'est ça.
Mais je vais vous dire sincèrement, le coup de feu en cuisine, c'est un exercice sportif qui est énorme. Parce que servir... Rémi, tu ne vas pas me dire le contraire. Ah ben... Moi qui suis comme ça, un passionné. Demain, tu me donnes 100 personnes à bouffer. S'il y a le même menu, c'est de la rigolade si tu as le temps de le préparer. Par contre, écoutez bien, 100 personnes avec le même menu, c'est rien. Par contre... 20 personnes qui mangent à la carte et que tout le monde doit manger en même temps, je peux te dire que là, tu as intérêt d'avoir une mise en place qui est faite. Donc ça, il faut faire honneur à tout ça. Maintenant, c'est pas un coup de doigt, c'est que je me dis aujourd'hui, tu as des gens qui ont besoin de reconnaissance, et à mon avis, avant d'entrer ou d'accepter une intronisation ou quoi que ce soit, ben, faut essayer de garder tout ça. Pardon, les...
Non, je dis tout ce qu'il faut pour préparer un repas dans un vrai restaurant. Moi, c'est ce que me disait un ami à moi. Il me dit, tu cuisines bien, pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant ? Je dis, parce que j'en suis incapable. J'ai, à la maison, je fais un repas, je crois, le maximum, c'est 18 ou 20 personnes. C'est pas un problème. On mange tous la même chose.
Mais c'est ça, oui.
Donc, c'est pas un problème. Moi, même si je sers l'assiette, c'est pas un problème. Par contre, si je commence à faire 4-5 plats différents, déjà, je vais en faire bouler la moitié, parce que je ne sais pas faire. Ça s'apprend, hein. C'est un métier, hein. S'il y a des écoles pour apprendre, s'il y a des gens qui vous l'apprennent, c'est que ça vient pas tout seul. Et il faut avoir une mise en place avant qui est énorme. Parce que les plats, c'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas les mêmes temps de cuisson, c'est pas les mêmes temps d'attente. C'est un métier et c'est du boulot.
Et puis il y a une différence, c'est quand on va chez toi, si tu nous invites,
aussi.
Et quand je vais au restaurant, moi je paye.
Exactement, payes, les exigences sont différentes.
Veux-tu savoir, Stéphane, ce que je regarde d'un restaurant avant tout? Alors, les gens vont dire, faut aller aux toilettes pour voir la propreté. Non. Moi, il m'arrive de quitter le restaurant suivant quand on m'amène la corbeille de pain.
Ah.
Parce qu'il y a un élément essentiel de l'être humain, même si on est au régime, c'est le pain. Et je trouve, s'il y en a qui m'écoutent, qui sont chefs, il vaut mieux qu'ils restent à faire de la cuisine qu'essayer de nous faire du pain. Le pain, c'est un métier de boulanger, c'est du pain bien cuit. Et je ne veux pas le dire parce qu'il y a des fois un acteur que je ne veux même pas citer, mais qui s'en va manger avec son pain. Alors c'est vrai que vous pouvez voir Picchu, des fois, qui va dans certains restaurants, la table est bonne, mais le mec, il n'y a pas moyen qu'il ait un pain comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui viennent, « Ah, je ne veux pas du pain cuit, je ne veux pas du pain trop cuit. » Ben oui, mais le pain pas cuit, c'est pas bon pour la santé. Et ça vient parce que des mofs me l'ont expliqué. Alors moi, je ne suis pas mof, mais on va voir si Rémi, qui est un chef, va être d'accord avec moi. Sais-tu ce que je me suis acheté pour mes 60 ans?
Ah.
Pour m'amuser chez moi.
Quelle est la surprise que tu t'es faite?
Est-ce que j'ai le droit de donner la marque exceptionnellement?
Ah bah bien sûr.
Je me suis acheté un Frima 6 niveaux mixte.
Ah oui, quand même.
Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Voilà.
Ah oui.
Ça, c'est un faux professionnel. T'as des restaurateurs qui m'entendent, qui vont dire, mais pourquoi il a fait ça? Alors, je l'ai acheté d'occasion et pour faire rager... Je l'ai payé pas cher du tout. Mais je l'ai fait installer et je me fais plaisir. Et moi, aujourd'hui, je peux parler de m'amuser avec des cuissons lentes, avec de... Voilà, moi, quand j'ai mes enfants, mes petits-enfants à manger, je fais ma mise en place. Et chez moi, on mange à la carte.
Ah ben là, par contre, moi, je vais te faire un contre-pied parce que moi, j'ai pas un frima. Chez moi, mon congélateur, il est gros comme un micro-ondes. Et je revenais un petit peu à la cuisine, c'est que...
Non, mais mon frima fait que du frais. Hein.
Il fait que du frais. Mais on a aussi le frima avec les cellules.
Ah non, il n'y a pas, déjà pas les moyens non plus.
Ah bon, ah d'accord. Bon, bah alors non, ça va, ça me rassure.
Si tu veux, pourquoi je me suis fait plaisir. J'ai la chance, tant pis si je dévoile, je peux te dire la vérité. J'ai la chance d'avoir 380 chez moi. Donc j'ai un four qui fonctionne mixte, c'est-à-dire qu'il fait vapeur, il fait sec, et ça me permet de pouvoir faire un peu de pâtisserie, m'amuser, faire des madeleines avec la ventilation, tu sais, quand tu veux que les madeleines montent. Pourquoi ? Parce que je suis passionné. Mais j'adore mes petits-enfants, et je joue avec ça. Vous connaissez les réseaux comme WhatsApp, je prononce mal. WhatsApp. Quand il y a famille, WhatsApp. On a un réseau famille, et je leur dis, bon allez, atelier sandwich, faites commande, voilà les fournitures. Et je fais des sandwichs. Ah, ouais, je fais pas de burger. Après, d'un seul coup, je dis, hop, allez, on fait une soirée. Tiens, j'ai envie de te dire quelque chose. Sais-tu comment je sers la fondue chez moi ?
Ça m'intéresse.
J'ai des filles.
Alors attends, déjà, quel type de fondue ?
La fondue, tu vas avoir une fondue avec de la viande.
Ouais.
Je la sers parce que les femmes en avaient marre que ça sente la friture dans la maison.
Oui, j'ai déjà entendu cette réflexion.
Comme je suis un passionné de bouillon, que je fais mon pot-au-feu, parce que pourquoi j'ai un four comme ça, c'est que moi, il n'y a pas de...
T'as fait une version feu ?
Non, j'ai pas un stérilisateur, j'ai pas un four
non,
pour
mais
ça.
Feu, le feu,
je stérilise.
PHO.
Non. Je fais pocher ma viande dans du bouillon de pot-au-feu. Parce que quand je fais un pot-au-feu, mon pot fait 80 litres.
Ah oui,
parce qu'à côté, je t'ai dit que j'avais... Bah oui. Et après, je stérilise mon bouillon. Et après, je fais mes sauces moi-même. Et ben, mon vieux, on se régale. Et c'est là que t'entends... Ah ben oui, mais moi, je veux faire la... Ah ben, papy, je veux du magret de canard. Ah bon, ben moi, je veux... Ah ben oui, mais moi, je veux... Ah, je voudrais du veau, je voudrais du porc. Et je fais une fondue comme ça.
Voilà. Génial.
C'est pour m'amuser. Et qu'est-ce qu'on mange avec la fondue? Oui, parce que je mange végétarien et vegan pour accompagner la viande, moi.
Il faut, bien sûr, pour accompagner la viande, évidemment.
Non, mais j'avais bien. T'as compris qui je suis, Rémi ? Voilà.
Tout à fait.
Quelqu'un d'entier, de vrai, quand j'ai envie de dire merde, je le dis, quoi. Mais voilà.
Et est-ce qu'il y a des surprises, des choses qui t'ont surpris sur cette édition 2022 des Gastronomades ? Est-ce qu'il y a des découvertes ? Toi qui es toujours à la chasse aux produits, aux producteurs, etc. Est-ce que tu arrives encore à découvrir des choses?
On a des bases. Ce que je découvre, c'est des saveurs nouvelles. Par contre, on va parler de choses simples, notamment ceux qui font, qui étaient tout à l'heure ton invité ce matin. Tu sais, c'est tartinable pour prendre l'apéro.
Oui, absolument.
Moi, je dis bravo, même si le gars, il l'a mis dans un bocal. Alors, Rémi peut dire, bien sûr, que tu as envie de te faire une terrine moi-même, mais avec mon four, je me fais des bons pâtés. Un pâté que tu as fait cuire en cuisson lente avec un thermomètre, comme font les professionnels, parce que j'aurais dû être charcutier traiteur, normalement. Après, quand tu le mets stérilisé, il n'a pas le même goût. Mais l'avantage d'un bocal, c'est que ça se conserve à température ambiante. Donc là, j'ai trouvé des façons de tartinable et d'apéro, parce que qu'est-ce qu'on recherche ? C'est la convivialité.
Bah, toujours.
La convivialité, ouais. Tu mets tout le monde autour d'un verre, alors avec alcool pour les grands, sans alcool pour les enfants. Donc j'ai trouvé ça très bien. Ouais, et puis des stands, à mon avis, ce qui m'a beaucoup plu, je sais pas si tu trouves pareil, l'interrogation des personnes. C'est-à-dire que il y a des questions quand même. Alors peut-être, on pourrait le dire, est-ce que c'est par des associations comme vous, quand les gens viennent discuter? Est-ce que c'est par la télévision? Tu sens que le public, parce que moi je les écoute un peu en retrait, ils posent des questions, mais moins cons qu'avant. Le mec, il essaie de savoir. Je l'ai vu sur la formation. Il y a des métiers qu'on a peur de plus voir. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait une pression qu'il ne faut plus manger de viande. Non, il ne faut plus bouffer de la viande. Il faut manger moins de viande, mais manger de la bonne. Donc si tu veux dire ce que je suis étonné, hein, les générations, on peut le dire. Je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes et ils sont vraiment...
Vous avez le même sentiment, Rémi, par rapport aux jeunes ?
Vous n'avez pas trouvé, là ?
Non, mais il y a une réelle connaissance. Maintenant, les jeunes sont
dans le public, hein, je parle.
Dans le public, et puis déjà, première chose, c'est que c'est la première fois que je viens sur les Gastronomades et je suis impressionné par le monde. Et impressionné, ne serait-ce que ce matin, j'ai croisé de nombreuses personnes, mais ils avaient tout prévu. Hein, les paniers étaient là, mais et c'était rempli, hein.
Ah ben, il y a une anecdote, j'ai vu une anecdote.
C'était rempli. Oui. Donc, cet après-midi, tiens, juste à côté de nous encore, on voit, il y a beaucoup de jeunes qui sont... qui sont là pour un coup à des bons produits.
Alors, les émissions culinaires à la télé font que les jeunes les regardent, donc s'intéressent. Et on dirait pas à mise après, mais après, ce qu'ils ont à leur portée, que nous, on n'avait pas à notre génération, c'est tous ces réseaux sociaux. YouTube, comme je disais tout à l'heure, avec énormément de choix, ils tapent un nom d'un produit, ils vont trouver 100 000 recettes. Et ils vont choisir ce qu'ils veulent. Ils vont trouver aussi comment il fait le produit, ce qu'est le produit, quels bénéfices on peut tirer pour la santé. Il y a énormément de choses qu'on peut découvrir. Et ils ont cet outil-là qui sert énormément à l'éducation. Et c'est vrai que les jeunes s'y intéressent grâce à la télé et à ces réseaux.
Mais tu sais ce qui m'a pris, peut-être que c'est Internet, et Rémi ne va pas dire le contraire, quand tu vois quelqu'un, un jeune, tout à l'heure, il y avait un concours avec des enfants.
Oui. Mmh.
Bon. Et il y a Brice d'ici, qui a le restaurant là à Angoulême.
Bien sûr.
Et qui leur a dit, d'accord, maintenant, tiens, on va aller caler les œufs. Et bien, il y a deux gamins qui savaient que c'était ce que voulait dire le mot écaler. Et là, t'as vu dans le public des anciens qui ont pris leur téléphone et qui ont regardé dans le truc ce que ça voulait dire écaler. Mais je trouve ça formidable.
C'est génial.
Alors, moi, aujourd'hui, dans le grand monde, je dis, qu'as-tu qu'il a besoin de dire des tomates mondées? Tu dis des tomates dont t'enlever la pierre, puis c'est tout, c'est aussi simple. Parce que ça aussi, à la saison, hein. Là, moi, il y a des restaurants, là, qui ont peut-être des décorations comme lui. Mais servir des tomates tout au long de l'année, c'est inadmissible.
Ah, je suis d'accord. Ça, justement, nous, au Collège culinaire de France, on combat tous ceux qui font du hors-saison. Il est important de travailler la saisonnalité, les produits de saison, et ils seront d'autant meilleurs si vous les avez oubliés pendant 7, 8,
mais
9 mois.
Mais bien sûr.
Eh bien, vous serez content de les retrouver, parce que les tomates de ce moment, je suis désolé, c'est pas terrible. Au mieux, celles que vous trouvez, bah, c'est de la serre chauffée, donc c'est pas très écolo. C'est pas bon pour la planète. Donc où on retrouve, et puis ça les auditeurs, qu'ils en prennent bien conscience, arrêtez d'acheter des tartes aux fraises et puis à la framboise en plein hiver chez les boulangers pâtissiers ou chez les pâtissiers tout court.
C'est du surgelé.
Ou c'est du surgelé ou ça vient du Chili. L'empreinte carbone n'est pas terrible. Et justement, c'est que si vous travaillez dans la saisonnalité, vous augmentez votre créativité.
Eh bien Rémi, je vais poser un autre coup de gueule. Puisque tu as parlé des boulangers pâtissiers, arrêtez de commencer à me faire les couronnes de roi avant la date. Parce qu'aujourd'hui, on commence à les voir.
Ah bah, bientôt,
on était au début du mois. Vous nous enlevez tout. Alors, les fèves et tout ça, on attend. Et puis, rappelez-vous une chose. La couronne des rois, quand t'as les couronnes, c'est une pâte levée, tu l'achètes chez le boulanger. Et quand tu en veux une autre qui est feuilletée, tu vas la chercher chez le pâtissier. Excuse-moi.
Absolument.
La voix. Vous avez l'impression que je prends la tonation d'un monsieur que j'ai souvent connu, qui m'a appris à poser des questions et être curieux. Je sais pas d'où il est, s'il m'entend, mais j'ai eu la chance de croiser un monsieur qui se prénommait Jean-Pierre, qui était curieux comme tout, et je pense à toi, Jean-Pierre, parce qu'un jour, tu devais emmener pour chez Bouvard à manger des mojettes de Pont-l'Abbé que tu avais acheté en bocaux avec une bouteille de vin, et à 4 heures, sur une fête, on a fait un 4 heures avec des mojettes et le vin de Jean-Pierre Coff. J'ai dit, dis donc, dans le TGV, ça va être beau tout à l'heure. Veux-tu une surprise? Là, j'ai une chance, tu vois.
Alors.
Je vais devoir partir parce que je parlais de Cole et j'ai la chance d'aller présenter une dame sur le salon, qui est une dame que j'adore beaucoup, qui est une meilleure ouvrière de France, en service, en salle. C'est Chantal Whitman. Et je vais aller la présenter pour faire les commentaires. Elle va flamber, elle va pour foutre le feu, j'espère. On va faire une recette de crêpes flambées. Voilà.
Ah,
alors maintenant, mon cher Rémi.
Mais c'est pas la chandeur, à ce que je sache.
C'est ce que je viens de leur dire tout à l'heure. Mais ici, ils vendent des crêpes tout le temps. Et ils ont trouvé le moyen de me faire faire. C'est ce que tu me. Eh bien, mon vieux. Bon, mais écoute, c'est sa recette, je vais faire mon métier. Tu es d'où, toi, Rémi?
Mais moi, je suis un ventre à choux.
Ah bon, t'as toujours de la famille. T'es pas un Rémi sans famille.
Ah, non. Je suis pas.
Alors, on va terminer sur une mode d'humour parce que c'est ça, la cuisine.
Exactement.
Eh bien, vous saurez que les mojettes, elles sont meilleures à Pont-l'Abbé qu'en Vendée. Mais si,
du travail.
Il y a plein de mojettes. La mojette, c'était en Vendée aussi. Et je suis un défenseur du haricot puisque je suis le parrain sur l'Arche du goût et le mouvement slow
c'est
food.
C'est quoi ton restaurant?
Haricot Comtesse de Chambord, et je défends aussi un autre haricot, vendéen s'en veut bien, et bien je défends aussi un haricot qui est dans le Cher, donc pas loin d'où je suis à travailler, qui est le haricot barangeonnier de la vallée du Barangeon dans le Cher. Donc on défend des variétés oubliées. Donc vous voyez le haricot, la mojette, tout ça.
C'est très très bien avec une bonne côte de gorette chez la Réunion bien là.
Hein, ou que alors, l'on salue au passage.
Ben oui, on va le saluer. Bon, alors écoute, je vais tester parce que faut que j'aille là-bas.
Oui, t'as la présentation.
Gardons l'humour, gardons tout ça et puis.
Et tu reviens nous voir demain?
Oui, je reviens demain pour parler du ustensile de cuisine avec la table parisienne.
Exactement.
Soyez curieux, soyez gourmand et surtout dites-vous une chose. Plus vous cuisinerez chez vous, plus vous essaierez de vous émerveiller, plus vous irez au restaurant.
Ah, c'est vrai, c'est pas faux. On va retenir cette phrase, Pichu. Merci beaucoup, Pichu.
Je vous embrasse.
Bonne présentation.
Ne changez rien.
Et à demain à l'antenne. Merci beaucoup. On me pose une question sur Facebook, peut-être Rémi, une idée de recette que vous pourriez faire pour les fêtes de fin d'année, quelque chose de goûteux, de convivial et d'assez simple. Allez, une idée.
Ah, je ferai peut-être un scoop ou une avant-première. Il suffira de regarder prochainement Météo à la carte.
Mettez-vous à la carte.
Météo à la carte.
Météo à la carte.
D'accord. Oui, j'adore une. Disons qu'on essaye maintenant de trouver des produits qui sont peu onéreux, qui demandent peu de travail. Et je fais, en fin de compte, pour cette préparation, je fais des côtelettes de caille croustillantes avec une purée de cèpe.
Là, 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 là.
Donc, c'est une petite caille. La forme qu'on lui donne ressemble un petit peu à une côtelette. Ouais, c'est l'os du pilon qui laisse imaginer l'os de la côte. Et à l'intérieur, on met une petite purée de cèpe. Mm-hmm. On met, si on a un petit peu plus de moyens, puisque la caille, ça coûte pas très cher, on met une petite escalope de foie gras poêlé. Et on enveloppe ça dans une bande de pâte filo. Passé à la poêle, ça devient croustillant avec le foie gras, la caille cuite et tout, et vous accompagnez cela avec un petit légume de Noël. En l'occurrence, là j'utilisais une butternut qui est cuite tout doucement dans un jus d'orange safrané avec une pointe de cannelle.
D'accord.
Ah oui, et c'est Noël.
Tout un concept Noël.
Et pour le dessert, eh ben une recette encore facile. Ce sont des segments d'agrumes, puisqu'on sera dans la saisonnalité des agrumes.
Oui,
et les agrumes, on en a en France. Mmh. Et toujours, je travaille l'agrume avec son jus. Tout le monde a ça. Toutes les mamies et les ménagères ont un peu de vide pris dans leur placard. Vous faites le jus d'orange avec un petit peu de vide pris. Vous mettez toujours, comme je le disais, ce petit pointe de safran qui va très bien avec l'orange. Mmh. Et vous mettez ça la veille. Vous faites votre jus. Ça va faire une petite gelée. Vous mettrez ça sur vos segments d'agrumes et vous mettez au dernier moment dessus un petit trait d'huile d'olive et vous mettez pas de pain, vous mettez une tranche de brioche vendéenne grillée dans le grille-pain, ce sera parfait.
Très bien, ça, la tranche de brioche vendéenne.
Mmh, ça sent déjà Noël.
John, ton sentiment?
Très bien.
Toi qui aimes bien les cailles.
Pardon?
Toi qui aimes bien les cailles.
Ah oui, oui, les cailles, oui. Oui, je crois que t'en as mangé à la maison, non?
Oui, absolument.
Oui, j'aime bien la caille. De toute façon, j'aime à peu près toutes les volailles. Puis les volailles sont des viandes très saines, donc voilà. Le jus de volaille, arrêtez quand vous faites du chapon, par exemple, de jeter le jus de volaille. Le jus de volaille a les mêmes vertus que l'huile d'olive. Le jus de volaille...
Ce week-end, c'est de représenter notamment le collectif, la Conquérie.
Voilà, tout à fait, représenter les disciples d'Escoffier, donc une petite démonstration culinaire tout à l'heure.
À 18h, c'est ça?
À 18h, absolument. D'accord. Après la petite démonstration culinaire, demain, je serai à nouveau présent dans la matinée, peut-être à faire quelques courses à titre personnel. Et puis après je remonte sur ma Touraine entraîné, chez un de mes confrères, un de mes collègues qui a sa petite apprentie qui se retrouve en finale du meilleur apprenti de France.
Ah.
Donc le sujet est tombé. Donc je vais aller faire un petit tour chez lui pour donner mon opinion, donner quelques conseils en lui souhaitant le meilleur pour la suite et en plus une jeune fille, donc moi je défends un peu les filles en cuisine. On en a besoin, elles savent cuisiner, elles ont besoin de personnes, elles sont très très compétentes. Moi j'ai toujours défendu la gente féminine dans mes cuisines. D'ailleurs à une époque où j'avais je le répète souvent, à une époque où j'avais 17 personnes dans ma cuisine, j'ai eu une année où j'avais plus de filles dans ma cuisine que de garçons. Et j'ai jamais eu de problème. Hein.
Bien sûr.
J'ai jamais eu de problème. Et puis après, ben, le mardi suivant, ben, ce sera le pari pour... ben, pour parler un petit peu du Collège culinaire de France avec, avec mes amis du comité de réflexion.
Et le sujet des MAF, c'est quoi cette année?
Ah ben je vais le découvrir.
Ah, vous ne l'avez pas encore? Dommage.
Alors, ça m'aurait bien plu. Ils m'ont envoyé un petit message. Ils m'ont envoyé un petit message. Sauf erreur, il doit y avoir de la volaille. Il doit y avoir des crêpes venaciennes. Alors, crêpes venaciennes... vous ne serez pas sans vous rappeler que ça doit être un sujet, et c'est un sujet qui a été moi, fait par Georges Blanc. Voilà.
Ouais.
Donc vous avez quand même un petit peu de technique, et puis à ce niveau-là, il faut quand même essayer de faire des choses.
Oui, je me doute. Oui.
Voilà, je recherche en même temps le sujet. Vous avez une petite chartreuse.
Ça aussi, c'est bien.
Chartreuse de tourteau de la mer à la crème d'avocat.
Ah.
Et ensuite, le plat principal, c'est une volaille de Bresse, la cuisse en rouelle et ses suprêmes rôties, sauce au foie gras et crêpe venassienne, comme je le disais donc.
D'accord.
Et pour finir, vous avez un fin sablé aux pommes, façon millefeuille, sauce caramel. Donc tout ça pour des jeunes apprentis. Il y a du boulot.
Effectivement, oui.
Mais il y a du boulot.
Il y a des jeunes, de la technique.
Il y a de la technique, mais il y a des jeunes qui vont très très bien. On l'a vu encore hier à Bordeaux, au concours des jeunes talents escoffiers, où il y avait une tourte de caille, justement. On a vu des choses très très jolies. Non, les jeunes, on a des jeunes derrière qui vont bien. On a des jeunes qui vont bien.
Bon, sacré programme donc.
On suit de quelle manière l'actualité des disciples d'Escoffier?
Alors l'actualité des disciples Escoffier International, parce que c'est une association internationale, oui. Malgré tout. Vous pouvez la suivre sur les réseaux, sur Facebook, à Disciples Escoffier International. Vous avez Disciples Escoffier National. On a notre propre Facebook par délégation également, où on suit tous les événements. Et donc vous avez beaucoup de postes qui sont régulièrement mis par les différentes délégations, et à l'international comme au national.
Parfait. Et bien écoutez, merci beaucoup de votre présence et de votre intervention. Bon courage.
Merci beaucoup.
Merci Rémi. Nous on va se quitter pour ce samedi. Merci John de ta venue toute la journée.
C'est moi qui te remercie. C'était
plaisir,
très agréable.
Un très très bel échange. Et puis rendez-vous l'année prochaine, naturellement.
Naturellement. Bon. J'espère en tout cas.
Avec plaisir.